France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Ça va, c'est le titre de son nouveau spectacle. La comédienne et humoriste Camille Chamou sera mon invitée à partir de 13h. Et pour commencer, critique. Aujourd'hui, on parle Beaux-Arts avec deux grandes expositions à voir en ce moment à Paris. Georges de la Tour, entre ombre et lumière au musée Jacquemart-André. Et Jean-Baptiste Greuze, l'enfance en lumière, c'est au Petit Palais. Vous écoutez les midis de culture et vous avez belle allure. Elles ont évidemment très belle allure aussi, les critiques de ce jeudi. Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie. Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Sarah Hilaire-Meyer, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. On commence donc avec cette exposition consacrée à Georges de la Tour au musée Jacquemart-André à Paris. Il a beau être un des plus grands et des plus célèbres peintres français du XVIIe siècle, ce qui nous est parvenu de son œuvre tient en une quarantaine de toiles. Car après avoir connu la gloire de son vivant, de la Tour est tombé dans l'oubli jusqu'au début du XXe siècle. Cette rétrospective est donc remarquable puisqu'elle présente plus de 30 tableaux prêtés par des musées et des collections des quatre coins du globe. On y trouve des chefs-d'œuvre mondialement connus tels que le Nouveau-Né, la Madeleine pénitente ou les joueurs de dés. L'exposition replace de la Tour dans le sillage du Caravage pour son travail sur le clair-obscur, mais insiste aussi sur son utilisation unique des sources de lumières artificielles, le plus souvent une simple chandelle qui donne à ses compositions un mystère entêtant. On commence par un avis en quelques mots, Sally Bonne.
Alors, mystérieux, oui, en effet. Georges de la Tour l'est, mais il est aussi lumineux, il est sombre et éclatant, et toute l'exposition se tient dans ce mouvement incessant d'une toile à l'autre, et à l'intérieur même des tableaux, et l'exposition est splendide.
Exposition splendide, Sarah Hilaire-Meyer.
Oui, bah, une très belle exposition, et comme vous l'avez dit, Marie, c'est l'occasion aussi de voir une trentaine d'œuvres de la main de la Tour sur une quarantaine connues à ce jour, ce qui est tout à fait exceptionnel. Après, on peut un peu regretter de ne pas y voir quelques-unes de ses toiles les plus connues, comme la Diseuse de Bonnes Aventures ou Les Tricheurs, mais ça tient au fait que ces tableaux ne peuvent plus aujourd'hui sortir de leur musée. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est une exposition qui est très bien conçue, parce qu'elle permet, de, je trouve, de comprendre quelle est la singularité de la Tour parmi les successeurs du Caravage.
Alors, on le place dans le sillage du Caravage. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi à nouveau, Sally Bonne ?
Alors, on est en plein XVIIe siècle. Il y a une veine dite ténébriste qui provient du Caravage dans l'utilisation du clair-obscur, c'est-à-dire la manière dont une lumière chez Caravage qui vient de l'extérieur, et c'est la particularité, c'est-à-dire qui va en fait former, tracer des espaces dans le tableau qui composent en fait des scènes et qui sont composées par la lumière elle-même. Donc on a une manière assez tranchée en fait de faire apparaître des corps dans la lumière. Ce qui différencie Georges de la Tour du Caravage et ce qui le rend si singulier, c'est la manière dont lui va s'intéresser à de la lumière artificielle, en l'occurrence on est au XVIIe siècle, donc la lumière des bougies, et la flamme de la bougie va occuper le tableau, va donner une sorte de lumière qui est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, une lumière intérieure au tableau, qui est aussi métaphoriquement la lumière intérieure qui est une lumière spirituelle et qui produit en fait et qui dégage quelque chose d'extraordinaire, extrêmement singulier et qui participe au mystère aussi, au mystère de la peinture de Georges de la Tour. Parce qu'il peint des scènes de genre, dont celles que Sarah Hilaire-Meyer a citées, qui ne sont pas là, effectivement, et qu'on connaît très bien. Mais à la fois, on découvre d'autres tableaux qui sont absolument extraordinaires et splendides. Donc des scènes de genre, des figures
de
saints.
Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire des situations, des scènes empruntées notamment à la Bible, ou des scènes de situations avec plusieurs personnages. Là, on a beaucoup, dans les premières salles, on a des scènes de genre, donc, et aussi de ses contemporains, ce qui est intéressant aussi de voir qu'il n'est pas le seul à revendiquer ce ténébrisme, cette veine ténébriste du XVIIe siècle, mais progressivement, on voit qu'il se sépare de ça et qu'il peint des scènes tout seul, des cadrages très serrés, presque des gros plans ou des scènes très intimistes. Et ces scènes très intimistes, elles sont travaillées à partir de la lumière, à partir de l'espace de la lumière qui vient de l'intérieur du tableau. Donc on a des intérieurs vides, on n'a pas d'arrière-plan, on a des murs qui sont absolument sans décor, on a ou quand il y en a un, c'est une chaise, mais extrêmement, il y a un côté un presque janséniste, hein, extrêmement à la fois simple et très très neutre en fait. Et puis la couleur et l'intensité, notamment de la chair, on pourra en reparler, elle provient de la lumière.
Sarah Hilarmeyer.
Oui, bah je trouve effectivement que c'est une exposition qui est bien faite. En fait, elle s'organise de manière à la fois thématique et chronologique, et elle met en rapport, alors pas systématiquement, mais souvent, des tableaux de Delatour avec des œuvres de ses contemporains qui s'inscrivent eux-mêmes dans, donc dans l'héritage du Caravage. Et donc, c'est ce qu'on voit effectivement dès la première salle. C'est, on voit par exemple une toile de Mathieu Lenain et une autre de Jean Leclerc. L'une est une scène de genre, donc une scène de la vie quotidienne qui se passe dans une taverne, et l'autre est une scène biblique. C'est deux toiles qui héritent très clairement du style du Caravage, qui consiste donc, comme le disait Sally, en des clairs obscurs qui sculptent les corps et en fait les font saillir ou irradier sur des fonds qui sont sombres, avec des cadrages très serrés sur les corps et sur les figures, et avec aussi une facture qui est plutôt réaliste ou naturaliste, c'est-à-dire qui ne vient pas idéaliser les corps. Mais et donc en vis-à-vis de ces tableaux, ce qu'on voit dans la première salle, c'est trois toiles de Delatour, dont une qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la femme à la puce, qui représente donc une femme assise sur une chaise frontalement face à nous. Elle est éclairée à la lumière d'une bougie. Elle est en train de presser entre ses doigts une puce ou un chapelet. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'elle presse entre ses doigts. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit dans cette toile, c'est en fait à la fois l'héritage du Caravage dans le dépouillement des décors, l'éclairage nocturne et la représentation aussi de figures populaires. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la manière dont effectivement Georges Delatour va en fait s'émanciper de ce vocabulaire, puisque la lumière chez lui n'a rien de tranchant ou dramatique. Elle vient pas suspendre une action dans un éclair qui serait celui d'une extase mystique, comme c'est souvent le cas chez les peintres caravagesques. Au contraire, la lumière chez Delatour, elle vient en fait envelopper les figures dans une ambiance feutrée et méditative. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il développe en fait une veine qui lui est propre et qu'on peut qualifier de silence méditatif, qui coïncide, peut-être qu'il faut le rappeler aussi, à l'époque avec le développement d'ordres religieux qui vont valoriser l'intériorisation de la foi plutôt que son extériorisation dramatique, ostentatoire.
Alors, Sally, vous parliez d'un mouvement à la fois dans les toiles et qui vont retrouver dans l'exposition.
Non, le mouvement, c'est celui incessant entre le côté mystérieux et le côté éclatant. Et donc, on a c'est presque quelque chose d'un peu dialectique, mais qui... Le mouvement, il provient des jeux d'ombre et de lumière que produit l'utilisation de la lumière dans les tableaux. Et parce que c'est vrai, Sarah a raison, il y a une dimension très silencieuse et donc un peu statique de ce silence-là. Et en même temps, il y a cette espèce de mouvement qui serait un mouvement qui viendrait de la figure elle-même, éclairée souvent par la bougie, et c'est ce qui est très beau d'ailleurs dans beaucoup de tableaux, en fait la source lumineuse qui éclaire les visages ou l'intérieur de la scène, en fait elle est cachée. C'est-à-dire qu'on la devine à peine, ou on la devine un peu, c'est-à-dire qu'elle est derrière une main. Donc on voit qu'il y a l'élément qui porte la bougie, enfin le porte-bougie, on va dire.
Le bougeoir.
Le bougeoir, oui, par exemple. C'est mieux. Où on voit le haut de la flamme, ouais. mais la lumière elle-même, en fait, est cachée. Ce qui produit cet effet comme ça d'intériorité. Donc il y a le mouvement, il vient de ce jeu comme ça entre l'ombre et la lumière et qui est très puissant. Et je suis d'accord avec Sarah, la femme à la puce, c'est un tableau absolument étonnant, d'autant plus étonnant qu'en fait elle tient dans sa main un objet qui sort comme ça de sa main très serré, et on ne sait pas ce que c'est, et on dirait presque un hameçon. Et comme elle est enceinte et qu'elle a un ventre un peu proéminent, on sait pas si l'espèce de chose qui est vraiment indiscernable attrape le tissu ou rentre dans la chair. Et cette la manière dont Georges Delatour éclaire les visages, notamment les corps, les mains, et rend compte de la chair, il y a quelque chose de étrangement assez sensuel. Mmh. Et il y a un tableau absolument, absolument splendide, parmi d'autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont splendides, c'est la Madeleine pénitente, qui est évidemment très connue, mais qui est bouleversant, parce qu'en fait, on voit notamment le reflet du crâne dans le miroir, donc en fait, c'est un tableau...
Elle tient un crâne.
Elle tient pas un crâne, elle est assise à une table, les trois quarts bas du tableau est complètement dans l'obscurité, on discerne à peine ses jambes, le bas de la table, etc. Et donc elle est pensive, mélancolique, elle regarde un peu dans le vague, elle tient de sa main gauche le crâne qui est lui posé sur un livre qu'on suppose être une Bible, dont on voit très nettement dans le miroir... le signet, le ruban qui vient sortir comme ça et qui serpente devant les pages. On voit le crâne dont on voit juste le profil de face, mais dans le reflet, on voit presque l'intégralité et bizarrement, le reflet rend compte de la couleur du crâne qui est dans l'ombre au devant, sous la main de la Madeleine. Et en fait, ce reflet dans le miroir est comme une photographie. On voit ça, on a l'impression de voir un Richter. C'est-à-dire, il y a une espèce de tremblement qui est le tremblement de la flamme. Et ce tremblement va donner une espèce de chaleur à cette scène qui est quand même un peu forte, enfin dense. Elle est très mélancolique, elle est très pensive. Il y a juste la lumière qui éclaire son visage perdu dans le vide. Elle est ailleurs et en même temps, elle est là, profondément là. C'est derrière elle, il y a rien. C'est le nu de la pièce. Et il y a cette chaleur en fait qui provient de la lumière elle-même et qui provient aussi de la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire la pénitence. Il y a d'autres tableaux de un Saint Jérôme pénitent. Avec une espèce de corde ensanglantée qui traîne au sol, là, qui est absolument incroyable.
Sarah Hillermeyer, vous nous avez parlé de la première pièce. Comment s'organise ? Parce qu'il y a trois séquences, on va dire.
Oui, en tout cas, cette exposition, je disais, elle s'organise de manière thématique, mais aussi de manière chronologique. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de voir l'évolution, en fait, de la tour vers un style qui, paradoxalement, devient, je trouve, de plus en plus abstrait, quoique toujours ancré, en fait, dans le monde. Concret, physique. Donc ce qu'on voit, ce qui commence par un style plutôt naturaliste dans les années 1610-1620, avec des mendiants, des musiciens ambulants, mais aussi des apôtres qui sont toujours représentés comme des personnes humbles, de manière frontale, en buste ou en pied, et sur des fonds épurés, éclairés par des lumières latérales dont on voit pas la source. Et donc ça, c'est pour la première période, on va dire. Et puis, il y a une seconde période, dans les années 1630-1640, où on trouve à nouveau des scènes de genre et des scènes bibliques, mais désormais donc, ce sont des scènes qui sont essentiellement nocturnes, qui sont plongées donc, dans l'obscurité, éclairées par des lumières artificielles dont on voit, dont on connaît désormais la source. Ce sont effectivement des bougies, des lanternes qui baignent les figures dans une atmosphère sereine. Donc cette lumière, on en connaît la source, à la différence du Caravage, mais comme chez Caravage, en fait, elle fait descendre le sacré dans le monde ordinaire, elle transfigure des scènes banales, comme par exemple une maternité qui semble être une scène ordinaire, eh bien s'élève au rang du divin.
C'est le nouveau-né.
C'est le nouveau-né qui est tout à fait incroyable. Mais je trouve que ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette transfiguration du banal chez Delatour, elle passe par la lumière, mais elle passe aussi au fil des années par une géométrisation et une épure des formes de plus en plus poussées, avec des visages qui deviennent extrêmement lisses, comme s'ils étaient moulés dans la cire. Il y a les bras, les doigts semblent aussi être comme des cylindres parfaits. Ce qui fait que de ce point de vue, on peut considérer que Delatour, il s'extrait finalement du naturalisme un peu aride de ses débuts, qu'on connaît pas bien d'ailleurs, pour aller du côté d'une sorte d'abstraction géométrique, hein, qui reste du côté de la figuration néanmoins, et qui vise en quelque sorte, en fait, à extraire du monde ordinaire une dimension sacrée, à incarner le divin sur terre par des formes quasiment pures, hein, comme ça, mais sans pour autant que cette géométrie soit aride. Elle, au contraire, il y a quelque chose d'une très grande douceur et une très grande sensualité, comme vous disiez, Sally.
Alors, c'était donc une grande exposition à voir, Georges Delatour entre ombre et lumière. C'est jusqu'au 25 janvier au musée Jacquemart-André. Et le catalogue est paru aux éditions Azan. Je vous rappelle aussi qu'il y a un documentaire, Georges Delatour, peindre la condition humaine, est déjà disponible sur arte.tv. On avance d'un siècle et on enchaîne avec un peintre qui lui aussi a connu le succès de son vivant pour tomber peu ou prou dans l'oubli après sa mort, sans cette fois renaître vraiment de ses cendres. Jean-Baptiste Greuze reste aujourd'hui plutôt méconnu du grand public. Et l'exposition dont nous allons parler à présent entend changer un peu la donne. Pour les 300 ans de la naissance du peintre, le Petit Palais propose de redécouvrir son travail à travers un thème majeur de la peinture de Greuze, l'enfance. Finesse de la peau, transparence du teint, lèvres ourlées, cheveux en bataille, gravité du regard. C'est vrai que Greuze a su capter les visages d'enfants et d'adolescents dans une vérité troublante. Et l'exposition du Petit Palais replace ce geste au cœur des idées des Lumières pour qui l'enfant est un individu et les parents sont responsables de son développement et de son bien-être. On commence par quelques mots d'introduction, Sarah Hilarmeyer.
Je trouve que c'est une exposition qui est très réussie parce que elle permet, en tout cas moi, elle m'a permis de porter un autre regard sur la peinture de Greuze que je pensais un peu ennuyeuse parce que moralisante, avec des scènes de genre conçues comme des contes moraux qui visent à instruire les spectateurs, à les élever à des valeurs morales. Or, d'une part, je trouve qu'on découvre une peinture qui est beaucoup plus vivante que ce qu'on peut imaginer, qui sait rendre la vie et effectivement en particulier celle des enfants avec beaucoup de subtilité, sans se réduire à un discours. Et d'autre part, on découvre aussi un peintre qui est plus ambivalent que ce qu'on pourrait penser à l'égard de l'ordre social patriarcal qu'il porte et qu'il promeut, qui est celui des Lumières, en sachant que les commissaires évitent le risque d'anachronisme qui consisterait à prêter à Greuze des intentions critiques qui ne peuvent pas être celles de son époque.
Sally Bonne.
Ah, c'est effectivement la peinture de Greuze est moins futile et moins légère qu'il n'y paraît dont on pouvait avoir le souvenir effectivement, et cette exposition le montre bien. Greuze était une star de son temps, vous l'avez dit Marie, il peint des visages d'enfants beaucoup, et on en voit beaucoup dans l'exposition, et ce faisant il dit aussi quelque chose d'un monde qui est en train de changer, le 18e siècle. Il dit quelque chose de conception éducative, sociale, tout autant qu'esthétique, qui sont nouvelle, et qui fait apparaître quelque chose aussi, parce qu'il veut être l'inventeur d'un genre pictural, un petit genre qui a tout de même pour ambition de contribuer à réformer la société. Les critiques de son temps, et notamment Diderot, qui a été un temps un grand défenseur de Greuze, le voyait en tant que peintre moraliste au sens plutôt positif, alors de celui qui vient dire comment il faut se conduire. Donc sa peinture se fait l'écho à la fois d'une piété rurale, du sentiment familial et de la vertu domestique, qui à l'époque commence à être considérée comme étant possiblement une source de bien-être et de progrès, puisque c'est un terme qui correspond bien à la pensée des Lumières. Ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi il s'attaque, vertu domestique, sentiment familial, plus que piété rurale d'ailleurs, en fait vont sans doute, travailler la manière dont il va s'intéresser à la question de l'intimité. Et assez étrangement, pas du tout de la même manière que Georges de la Tour, même si on pourra peut-être en parler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans le trait, dans le style, ni dans le geste du peintre, mais il y a quelque chose d'un dénuement des portraits, notamment des portraits d'enfants ou des portraits tout court, où tout est concentré sur le visage. Alors un visage là qui est aussi éclairé, mais qui est comme éclairé, lui, alors pas d'une source extérieure, qui est comme éclairé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il rend, il donne une clarté des visages d'enfants assez, ils sont lumineux, c'est-à-dire qu'ils sont sur des fonds très sombres et souvent habillés de sombre, et la palette est plutôt brune, et tout d'un coup on a ces visages qui sont éclairés par leur regard, qui est un regard aussi spécifique, et c'est la qualité aussi de la peinture de Greuze qu'on pourrait dire une sorte d'art de l'attention. C'est ce qui a, j'aime beaucoup cette formule qui était celle d'un critique américain qui s'appelle Michael Fried, qui à partir de Diderot a regardé Greuze et il parle d'absorbement des figures. Les figures, les portraits d'enfants ou d'autres sont absorbés dans leur activité et en fait induisent un certain type de rapport du spectateur à cette figure qui nous regarde pas et qui est souvent ailleurs.
Alors, Sarah, Qu'est-ce qu'il nous montre de l'enfance? En quoi il se décale de ce qu'on avait pu faire avant?
Disons que ce qu'on a pu faire avant, ce qu'on connaît les enfants tels qu'on les voit dans la peinture avant peut-être le 17e, c'est plus souvent des poutis, des petits enfants dodus qui volettent dans les airs. C'est souvent aussi il peut y avoir des portraits aussi, des commandes faites par des aristocrates ou par la haute peut-être bourgeoisie au 17e siècle. Mais ce qui est intéressant avec ces portraits d'enfance, c'est qu'ils ne les réduisent pas, disons, à des archétypes ou à des stéréotypes. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, dans sa peinture. On découvre sa grande virtuosité de ce peintre. Il peut à la fois avoir une touche qui va être très vigoureuse, empâtée pour les vêtements, très fluide et lisse pour les cheveux, beaucoup plus vaporeuse pour les peaux nacrées et les lèvres vermillons des enfants. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quelque chose de très doux, d'un peu flottant, qui traduit bien en fait justement cet âge-là, qui est en fait une forme d'indétermination, puisque ce sont des êtres en devenir. Et de ce point de vue, Greuze témoigne d'une très grande sensibilité, parce que justement il tombe pas dans des représentations stéréotypées des enfants qui incarneraient nécessairement la joie de vivre ou la vitalité. C'est beaucoup plus complexe chez lui, puisque ces enfants c'est pas une collection d'archétypes, ils sont toujours représentés comme des individus à part entière, quoique anonymes, en fait, ça peut être les siens ou ceux de ses proches, mais on ne connaît pas leur nom. Pour autant, ça ne devient pas, des archétypes. Et ils sont souvent, effectivement, représentés, perdus dans leurs pensées, donc absorbés, comme si le spectateur n'existait pas, avec des airs parfois très tristes, très mélancoliques, ce qui contrevient complètement, effectivement, à l'image d'Épinal qu'on pourrait se faire des enfants. Et ça, effectivement, ça coïncide, ça s'inscrit pleinement dans le contexte des Lumières, qui sont les premiers à avoir considéré l'enfance comme un âge à part entière. Et il faut préciser aussi que cette complexité de cette peinture, vous voyez, qui se réduit pas à des stéréotypes, voire à des archétypes, elle passe par la facture de l'artiste, par sa touche, et pas par un récit qui se déploierait sur la surface de la toile. Parce que, autrement, ce qu'a voulu faire Greuze, comme le disait Sally, c'est développer un nouveau genre. En fait, c'est pas vraiment un nouveau genre, c'est des scènes de genre, donc de la vie quotidienne, qui s'élèveraient au rang de la peinture d'histoire. La peinture d'histoire étant le grand genre au sein de l'Académie, et pour ce faire, donc, la peinture doit être essentiellement narrative, et elle doit se donner pour rôle d'instruire, comme je disais, les spectateurs, en les rendant sensibles à des vertus morales. Et donc, ce qu'on peut craindre quand on regarde la peinture de Greuze, c'est que ce soit une peinture où le discours prend le pas, en fait, sur une dimension plus sensible, plus expérientielle. Et il se trouve que c'est en partie vrai. Il y a quand même un certain nombre de scènes de genre qui sont très didactiques, très théâtrales, avec des répertoires de gestes et d'expressions censés nous émouvoir, mais qu'on peut trouver un petit peu, peut-être, grotesques. Et je voulais juste ajouter peut-être une chose, si on a le temps, je parlais de l'ambivalence aussi de la peinture de Greuze à l'égard l'ambivalence de la peinture de Greuze, elle tient à la philosophie dont il est le porteur. Et l'adepte, qui est celle des Lumières, qui commençait un courant progressiste, qui visait à l'instauration d'une société plus libre, plus égalitaire, fondée sur le savoir, la connaissance, mais qui avait pour socle, le socle de ce renouveau était en fait l'ordre patriarcal, qu'il s'agit de naturaliser et de reconduire en faisant aussi de la famille le lieu d'édification morale des enfants, avec des rôles très genrés, donc le père, incarnation de la loi, la mère, incarnation de l'amour et de l'allaitement. Et de ce point de vue, c'est vrai que Greuze est dans le droit fil de ce courant, puisque il peint des scènes de la vie de genre familiale, comme des contes moraux, effectivement, qui témoignent de la bonne ou de la mauvaise éducation des enfants et des conséquences de cette bonne ou mauvaise éducation avec des fils ingrats ou des fils vertueux. Mais ce qui est surprenant, c'est que Greuze semble parfois critiquer cet ordre patriarcal, que par ailleurs il soutient, ou du moins montrer les vices, comme avec donc des peintures où on voit de jeunes filles qui ont des airs éplorés, perdus, qui tiennent dans les mains des cruches cassées, brisées, qui ont à leurs pieds des œufs cassés, qui sont autant de symboles en fait d'une virginité perdue. Alors à l'époque, notamment par Diderot, ça a pu être interprété comme des peintures qui, sous le voile de la vertu, en fait sont de nature érotique, mais aujourd'hui, c'est du moins ce que suggèrent les commissaires, ça peut être interprété comme des peintures en fait qui dénoncent des abus sexuels commis par des hommes et qui donc viendraient critiquer en fait un ordre social qui encourage et qui autorise ces violences de genre. Alors, pour autant, il ne s'agit pas de dire que Greuze désingue le patriarcat. Il considère que c'est une chose qui peut être tout à fait, c'est le socle même de l'organisation sociale, mais néanmoins, il y a des dérives. Voilà. Mmh.
Sally Bonne.
Oui, il dérive parce que derrière les portraits délicats, tendres, sensibles, d'une très grande expressivité des enfants, des mères avec les enfants, des pères avec les enfants et les petits-enfants, il y avait quand même des scènes de famille qui sont très nombreuses. Derrière ces portraits délicats, il y a aussi, qui sont sans mièvrerie quand même, hein. Faut le dire. C'est-à-dire, il y a la tendresse de l'amour filial, mais il n'y a pas de mièvrerie. Par contre, il y a quand même aussi beaucoup de mordants. Sarah l'a dit, les enfants peuvent avoir l'air tristes ou pensifs, et les scènes de famille sont pas toujours idylliques. Et il y a notamment une dimension à la fois critique et ironique, parce que apparaissent les tensions, les réconciliations, la mesquinerie ou la tendresse, la violence aussi que la famille peut engendrer. Donc il y a des scènes de retour de l'ivrogne, il y a des scènes de femmes en colère qui est assez amusante, j'avoue. La belle-mère, la lecture du testament avec une sorte de fourberie, le fils répudié, le fils ingrat, le fils puni, ou quand même ce dont il est question, notamment dans un tableau resté célèbre, parce que ça, c'était le tableau que Greuze a proposé pour comme morceau de réception à l'Académie, et qui a été largement rejeté parce que c'était une scène d'histoire, mais qui était en même temps une scène intime, puisque il peint Septime Sévère et Caracalla, et il fait du père le responsable de la monstruosité de son fils, donc il remet en question d'une certaine manière le patriarcat dans ce qu'il produit. Ce jeu-là, ou cette dialectique que j'évoquais tout à l'heure, elle se pose aussi dans l'écart entre cette tendresse liée à ce qu'il cherche à représenter de l'enfance, et cette dimension, on va dire presque, oui, sexuelle, qui est quand même, notamment dans les derniers tableaux, et Sarah l'a évoqué, le fameux tableau de la cruche cassée, qui, si on le regarde bien, est quand même assez violent et assez terrible, parce que le visage de la jeune fille dont on suppose, puisqu'elle tient dans ses mains sa robe devant son sexe, est très
métaphorique,
très, oui, au moins. Enfin, plus que ça, oui.
Au moins. Jean-Baptiste Greuze, L'enfance en lumière, chez jusqu'au 25 janvier 2026 au Petit Palais. Merci beaucoup Sarah Hélard Meyer, merci Sally Bonne d'être venue dans les Midi de Culture aujourd'hui. Toutes les informations sur ces deux expositions, vous les retrouvez évidemment sur la page des Midi de Culture. C'est à vous maintenant de vous faire une idée.